Bonjour les amis, bienvenue sur Réussir ma vie, l'émission qui vous montre comment ne pas la gâcher en vivant pour Dieu, car c'est pour lui que nous existons. Je suis Salvatore Chiazza, pasteur, et je suis accompagné pour cette reprise de Réussir ma vie saison 2 de mes amis Alessio et Adrien.
Salut tout le monde.
Hello.
Alors ça fait un moment, le dernier épisode c'était en décembre 2023 déjà, et on a fait une petite pause qui je crois était bénéfique, surtout parce que ce petit arrêt nous a permis, avec l'équipe, de redéfinir la vision de la chaîne, les objectifs, un peu tout ça. Et quand je parle de l'équipe, vous savez, il y a les voix qu'on entend, il y a nous trois, vous entendez Jean-Christophe, Jonah aussi, mais derrière, il y a aussi Christophe, Chloé, Bernard, Corinne, Hugo, qu'on remercie. Pour cet épisode de reprise, c'est vraiment, vraiment spécial, parce que le sujet qu'on va aborder touche à la dimension pratique, si vous voulez, à l'ADN de cette chaîne qui s'appelle, je vous le rappelle, Réussir ma vie. Alors, on s'est posé la question sérieusement. C'est une chaîne chrétienne, je suis pasteur, mais concrètement, comment on peut outiller nos auditeurs, notre communauté, pour cette vie que nous sommes appelés à vivre pour Dieu? Souvenez-vous, on vous le dit depuis le début, réussir sa vie, c'est la vivre pour Dieu, parce que c'est pour lui que nous existons. Il nous a créés et il nous a créés pour lui. Donc je vous pose la question, à l'aise peut-être, est-ce que le fait de recevoir le message de l'Évangile et vraiment avoir une rencontre avec Dieu, placer sa foi en Christ, être un chrétien, est-ce que c'est ça, réussir sa vie, ou est-ce qu'il y a plus? Ou plutôt, est-ce que ça s'arrête là? Que signifie vraiment réussir sa vie?
Et clairement, je pense que, tu sais, d'un point de vue déjà purement salutaire, c'est sûr que croire en Christ, placer sa foi en l'Évangile est suffisant pour réussir sa vie dans le sens où tu es sauvé. Mais par contre, je pense que la vie chrétienne, c'est plus que juste attendre le retour de Christ ou attendre ta mort et d'être au paradis avec le Seigneur pour l'éternité. Et ça, je pense que la Bible, elle est remplie d'exemples ou d'endroits où on nous montre que réussir sa vie, c'est plus que juste être passif ici, sur terre. Vraiment, cet aspect que Dieu nous montre qu'on a été placé sur cette terre, pas pour rien finalement, mais pour plus. Et c'est précisément dans cette sphère de comment me préparer pour ce plus que va se concentrer cette saison de RMV. Comment se positionner de façon à vivre la vie que Dieu a pour moi?
Excuse-moi, je te coupe, mais tu peux défendre ça bibliquement?
Mais bien sûr.
À quel verset est-ce que tu penses concrètement?
Il y a un passage qui est tellement merveilleux, qui nous parle de ça, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. »
J'aime bien le riche,
oui.
Riche d'œuvres bonnes. On oublie souvent cette partie-là, bien sûr que Dieu nous a unis à Christ, c'est la partie salut, mais Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, là, maintenant,
sur cette terre. C'est ça, et vraiment, comme tu dis, le mot riche, c'est vraiment cette notion qu'on est censé avoir une vie riche d'accomplissement. Et ça ne veut pas forcément dire une vie débordée, hein, mais en tout cas une vie qui porte du fruit. Finalement, l'inverse de la médiocrité ou de la passivité. Et je crois qu'il ne faut pas confondre dépendance de Dieu ou confiance en Dieu avec la passivité. Aujourd'hui, vous savez, on cache souvent notre passivité derrière des termes spirituels qui sont rien d'autre que juste de la paresse ou un manque de volonté. Et notre vie ou l'impact de notre vie n'en est rien d'autre que juste la conséquence, finalement. Et quand on réalise qu'on a une mission sur Terre, on se prépare à être à même de la mener à bien. C'est un peu comme...
Un peu comme lorsqu'on est sportif.
Ouais,
lorsqu'on est exactement. Un soldat, un étudiant. La réussite, elle n'arrive pas par hasard. Mm-hmm. La réussite n'arrive pas... Si tu as une coïncidence ou un enchaînement de coïncidences, c'est vraiment une préparation. Il faut se positionner pour cela.
Exactement. Et c'est vraiment la même chose finalement pour la vie chrétienne. C'est pareil. Et vivre une vie riche en bonnes œuvres, mais c'est possible. Et c'est possible en mettant en place des choses simples sur la durée qui vont vraiment donner des résultats concrets, mesurables et encourageants. En fait, il faut vraiment simplement comprendre, vouloir et décider de mettre les choses en place pour que ça arrive. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va ensemble démarrer quelque chose de nouveau, mais qui est vieux comme le monde, qui est le moyen le plus, je pense, efficace que j'ai jamais rencontré afin d'améliorer tous les domaines de notre vie à une vitesse inimaginable. Spirituellement, relationnellement, physiquement, mentalement, émotionnellement, professionnellement et bien d'autrement, c'est la chose que tous ceux qui réussissent dans la vie, peu importe finalement ta définition de la réussite, ont mis en place dans leur vie. Je vois, Adri, tu as vraiment envie de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, le concept de réussir sa vie, quand on y pense, il faut prendre ça dès le début. Il y a cette citation du pasteur Joel Osteen qui dit « La vie commence chaque matin ». Et l'idée, c'est qu'il est impossible de réussir sa vie en regardant la vie comme un grand tout. Réaliser que notre vie, elle est faite de journées, des journées qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Dans cette journée, il y a une partie qui est décisive, une partie de la journée qui est bien plus importante que toutes les autres. Une partie qui cache vraiment un trésor que la plupart des gens sous-estiment vraiment. Et cette partie-là, c'est le matin. En fait, la façon dont on va se réveiller chaque jour, ainsi que la façon dont on va procéder à ce moment-là précis de la journée, ou plutôt dont on ne va pas procéder, dont on va rien faire du tout, ben, ça va conditionner toute notre vie. Je dirais même que ce qu'on fait à ce moment précis, ou plutôt ce qu'on ne fait pas, parce que la plupart des gens ne font rien du tout, conditionne notre degré de succès dans chaque aspect de notre vie.
Donc tu es en train de dire, si je résume un peu, on parle de réussir sa vie.
Ouais.
Faut pas regarder la vie comme un grand tout. La vie, c'est des journées les unes derrière les autres, qui comportent des décisions, des choix, toutes sortes de choses.
Totalement.
Et donc réussir sa vie, c'est réussir ces journées-là, qui sont la vie.
Mmh.
Et pour réussir ces journées-là, il faut réussir ces matins, parce que le matin, c'est la partie qui est, comme tu dis, décisive par rapport aux autres moments de la journée.
Exactement. Mais à l'inverse, si on rate les matins, si on passe des matins médiocres, improductifs, où on s'éparpille, où on procrastine, ben à ce moment-là, on gâche nos journées, on rate nos journées. Et donc, on rate notre vie. Et on a une vie de qualité médiocre. Il y a ce proverbe qui dit ben, « La vie, elle appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Je pense qu'on le connaît tous, ce proverbe. En fait, c'est vrai pour plein de raisons, mais ne serait-ce juste parce que le matin, on a plus d'énergie. Alors que le soir, ben, on est tous d'accord, on est plus enclin à la détente.
Ouais, et puis il y a aussi l'aspect, tu sais, le matin, tu fais des choses, tu as le temps de faire des choses que peut-être tu ne ferais pas pendant la journée, et peut-être que les autres ne feront même pas pendant la journée. C'est vraiment, tu as beaucoup plus de temps, je trouve, le matin, en fait.
Totalement. L'idée, c'est que changer de façon radicale nos matins, ça change de façon radicale notre vie. Donc c'est pour ça qu'on aimerait vous proposer un programme matinal, appelé le programme RMV, on n'est pas allé très loin pour trouver le nom, mais c'est un challenge, une routine qu'on a déjà démarré et qu'on aimerait faire tous ensemble. Déjà 7 à s'y être engagés depuis 5 semaines à l'heure où vous nous écoutez, et ça change tellement, mais tellement les choses. Et concrètement, on a envie que vous puissiez partager cette expérience, et on a envie de vous emmener toute cette communauté RMV, de créer vraiment un mouvement, une grosse vague qui va faire bouger les choses. Parce que ce que j'ai vu, ce que je crois, ce qu'on a déjà vécu en 5 semaines, je crois réellement qu'il y a une puissance. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose à aller chercher.
Ouais.
Il y a des vies qui vont changer, des gens qui vont enfin, je pense, solutionner certains problèmes qu'ils traînent depuis des années et des années, des combats de toutes sortes. Et ce qu'on aimerait, c'est partager toutes nos expériences au cours des semaines à venir dans de futurs podcasts. C'est un programme en 8 étapes pour changer nos matins, nos journées et donc nos vies. Donc il s'agit de 8 pratiques matinales à l'efficacité plus que prouvée qui, s'ils ne vous sauvent pas forcément la vie au sens littéral du terme, ben, en s'associant entre elles, ces 8 pratiques, elles vous permettent de vivre la vie que Dieu a pour vous. Cette vie riche dont tu parlais tantôt avec Éphésiens 2, et cette vie riche d'œuvres bonnes préparées d'avance, que Dieu veut que nous accomplissions, peu importe notre passé ou notre présent, peu importe notre âge ou notre motivation.
Oui, je te coupe, Adri, mais c'est vraiment puissant. Je crois qu'il faut bien réaliser que vivre la vie que Dieu a pour nous, c'est malheureusement ce que la majorité des gens ne vivront jamais. On peut passer à côté toute la vie. Parce qu'en vrai, tout le monde fait la même chose. Et clairement, pour vivre ce que peu de gens vivent, il faut faire ce que peu de gens font. Et pour ça, il faut obligatoirement s'aventurer hors de ce qu'on pourrait appeler un royaume tellement confortable de médiocrité, qui s'appelle parfois juste un oreiller, qui s'appelle la flemme. Comme un peu une prison douillette qui nous garde dans la petitesse. Et c'est tragique, mais ça nous empêche d'entrer dans une dimension, la dimension extraordinaire d'Éphésiens 2:10.
Et quand tu parles, tu vois, ça me fait rire. Quand tu parles de cette petite prison douillette qu'on appelle des fois l'oreiller, Ben, c'est une prison que je connais bien, personnellement. Ouais. Je l'ai connue pendant de bien longues années, mais de laquelle je suis sorti.
On la connaît tous, sauf Alessio.
Non. On la connaît aussi très bien.
Non, mais je crois que l'impact d'un changement a changé nos matins sur le reste de notre vie est juste fou. On l'a expérimenté et vous allez découvrir le secret de réussir son matin pour réussir sa vie. Ça se limite à ça. Il y a plein de méthodes de développement personnel complètement fondées sur cette idée. On a en tête le Magic Morning, le Miracle Morning, le Routine Morning. En fait, tout le monde a compris le principe. Le souci est que tout ça n'est centré que sur le développement personnel et passe à côté de l'essentiel. Or, c'est l'essence de cette chaîne. Il n'y a pas de développement personnel sans Dieu. On pourrait même dire que le vrai développement personnel, c'est la sanctification. Mmh. Et c'est un peu comme, avec le développement personnel, c'est un peu comme utiliser les bons outils pour les mauvais travaux. Vous voyez, jamais bien équipé pour ça. Et les croyants ont toutes les armes en main pour avoir des vies qui font une différence dans le monde. Juste, où, j'ouvre une parenthèse, mais cette réalisation, alors qu'on étudie Éphésiens en ce moment, cette réalisation que Dieu a créé une nouvelle humanité en Christ. Une nouvelle société qui s'appelle l'Église. Et si vous imaginez la société de Jésus, c'est certainement pas une société de médiocrité, d'échec, de gens qui n'ont même pas la volonté de se réveiller le matin, mais c'est une société d'hommes et de femmes dont l'identité est en Christ. Et c'est juste fou ce à côté de quoi on passe pour la simple raison qu'on ne se donne pas les moyens d'avoir plus d'impact. Et je crois que ça doit se traduire en quelque chose de concret. Et je sais que toi, Alès, ça a vraiment impacté. Alors, expliquez un peu à nos auditeurs, explique-nous comment on a mis ça en place et qu'est-ce qu'on a mis en place.
Exactement. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est d'embarquer avec nous dans ce plan, dans ce programme RMV composé de 8 exercices pendant 80 minutes et durant 80 jours qui vont, on en est tellement convaincus, transformer nos vies, vos vies, radicalement, parce qu'au bout de ce temps, elles seront devenues des habitudes, ces choses-là que vous aurez mis en place, ces oui pratiques, dont vous, finalement, ces habitudes que vous ne pourrez plus vous en passer, finalement, tant elles auront fait leur preuve. En fait, ça va vraiment vous changer profondément. Vous allez apprendre à vous réveiller chaque jour avec excitation, juste en observant le lien de cause à effet entre se lever tôt pour pratiquer la méthode RMV et voir toute votre vie changer. Parce que changer les matins change les journées et change les vies.
Je crois que c'est vraiment, pardon de te couper, mais c'est vraiment important de souligner que à nos auditeurs, il n'y a pas besoin d'attendre les 80 jours pour déjà voir une évolution, déjà voir un changement. Il y a déjà du changement qui est tellement encourageant après, là ça fait 5 semaines, mais tellement, tellement bénissant de voir les progrès
à fond.
On aura l'occasion d'en parler, mais ces 5 semaines, on peut dire qu'il y avait différentes étapes dans les 5 semaines. La façon dont on vit les 2 premières semaines n'est pas la façon dont on vit les semaines 3 et 4, ni la 5e semaine, mais on verra ça peut-être.
Et justement, tu parlais de toutes les étapes, mais dans les épisodes qui vont suivre, on va prendre le temps de décortiquer chacun de ces étapes, de ces exercices ou de ces disciplines. On va prendre le temps de les analyser, de partager nos expériences dans les épisodes qui vont venir et vous donner des clés finalement pour en tirer les meilleurs profits. Alors, vous attendez pas à des choses bizarres ou qui sortent de l'ordinaire. Finalement, l'impact se trouve dans la répétition et non dans l'originalité. Il y a évidemment là-dedans, dans ces exercices, la lecture de la Bible, la prière, mais pas que, évidemment. Mais tout commence avec un engagement. Et donc, avant de vous donner les 8 clés pratiques, les 8 étapes et le programme, j'aimerais qu'on puisse aborder ensemble le point essentiel de cette méthode, finalement ce sur quoi tout repose, c'est-à-dire le matin. Beaucoup de gens disent, et c'est cette expression de dire « mais je ne suis pas du matin ». Et moi, personnellement, c'était vraiment mon cas. Et on peut se dire aussi, tu sais, j'ai besoin d'autant d'heures de sommeil pour être en forme, pour être efficace. Et j'aimerais qu'on puisse regarder à ça d'un peu plus près, ce qui est vrai, ce qui est faux. Finalement, ce qui peut nous empêcher de devenir ce que Dieu a prévu, mais parfois, c'est juste des mensonges simples, mais puissants. Ok, donc peut-être la première chose à dire par rapport au sommeil, c'est qu'on n'est pas tous égaux face au sommeil. Il y a des différences. Et je parle ici pour des adultes, ok? Mais finalement, pas des différences si énormes que ça. Il est médicalement prouvé qu'un adulte en bonne santé, donc entre 18 et 64 ans, a besoin d'entre 7 heures et 9 heures. Plus c'est trop, moins c'est pas assez. on va peut-être pas en parler des heures, mais en tout cas, il y a plein d'idées reçues, des ressentis ou même problèmes physiques. Mais on va partir sur cette base que pour un sommeil, pour te réveiller en forme, il te faut entre 7 heures et 9 heures de sommeil. Peu importe ce que tu fais dans la vie, si tu dors 7 heures et que ça suffit, ben c'est bien. Et si tu dors 9 heures et que tu en as besoin, ben c'est bien aussi.
Pour rebondir sur ce que tu dis, ça me fait rire parce que c'est moi, j'ai toujours cru cette idée reçue que je devais être un peu de la famille des koalas parce que j'ai toujours eu besoin de plus de 9 heures. Et je me disais, mais il m'en faut encore plus. Mais c'était comme jamais suffisant. Tu vois.
Il y a vraiment cette idée reçue de... Les gens, on pense souvent, moi je pensais aussi ça, que plus tu dors, plus tu vas te réveiller en forme, plus tu as 2 heures de sommeil, plus tu te réveilles en forme et bien reposé. Or, c'est sûr qu'il y a une base, comme on dit, entre 7 et 9 heures, un minimum qu'il faut assurer à ton corps de sommeil. Mais le fait de dormir longtemps n'est pas nécessairement synonyme de sommeil réparateur. L'idée, en plus de respecter les 7 à 9 heures, c'est vraiment d'essayer de te réveiller au bon moment de ton cycle du sommeil. Vous savez que le sommeil est divisé en plusieurs cycles. Il y a des sommeils profonds, sommeil lent, sommeil léger, tout ça. Et donc l'idée, c'est vraiment de te réveiller, de chercher à te réveiller lorsque tu as atteint un sommeil léger, lorsque ton corps est dans cette étape de sommeil léger. Et pour ça, c'est assez facile de calculer. En moyenne, on calcule que toutes les 1h30, ton corps passe un cycle entier de sommeil. Et donc, pour ça, il y a des applications ou même un site internet où tu peux juste écrire l'heure à laquelle tu veux te réveiller et le site te donne l'heure, les différentes heures à laquelle tu dois te coucher pour respecter tes cycles et finalement te réveiller au meilleur moment pour que ton corps soit en forme. Par exemple, quand tu te réveilles, lorsque tu es dans un cycle de sommeil profond, c'est vraiment là que tu ressens une fatigue énorme. Même si tu as dormi presque 9 heures, 10 heures, si tu te réveilles au mauvais moment, ton corps le ressent. Tandis que si tu travailles au bon moment, tu le ressens aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui change beaucoup dans cette routine du matin, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on va se coucher.
En parlant de l'état d'esprit, justement, ça me fait vraiment penser quand je partais en vacances en Sardaigne. Mais on a tous vécu ça. La veille, on est tellement excité, on a déjà tout préparé, etc., que le réveil, on ne le rate jamais. Pas besoin de multiplier les réveils, d'en mettre 8. L'un à la suite de l'autre, toutes les 5 minutes, comme certains font, mais vraiment juste, on se réveille naturellement presque, tu vois. Et c'est vraiment cette idée de ce mécanisme qui se déroule dans notre esprit d'excitation, d'attente, de réjouissance, de se dire, mais demain, ça va être une bonne journée.
Ah, je crois que c'est surtout l'état d'esprit dans lequel tu te réveilles qui est intéressant. Pas seulement le fait de se réveiller facilement, mais tu te réveilles avec un état d'esprit qui est joyeux. Il y a une certaine excitation, comme tu dis.
C'est ça. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que se lever chaque matin, ça devrait nous procurer plus d'attente que se lever pour partir en vacances. Parce qu'en fait, la réalité pour laquelle on se lève chaque matin, c'est pour vivre notre vie. La seule vie que Dieu nous a donnée. Vivre notre existence, en fait. C'est l'enjeu de chaque matin. Et le message que tu envoies à ton cerveau quand tu attends la dernière minute pour sortir du lit et commencer en fait ta journée, c'est un peu comme si tu posais un acte de résistance. Tu retardais ton existence, en fait. Chaque fois que tu pousses sur le bouton répété de ton réveil, ben, tu commets un acte de résistance vis-à-vis de toute ta journée et donc vis-à-vis de ta vie. Puisque comme on l'a dit, ben, pour réussir sa vie, il faut réussir ses journées. Pour réussir ses journées, il faut réussir son matin.
Mais oui, justement, frère, je trouve que l'aspect de changer ton état d'esprit avec lequel tu vas dormir, moi, personnellement, ça a été comme radical dans ma vie et je trouve que c'est tellement pertinent de se dire, mais en fait, là, je vais dormir, mais demain, comme tu dis, je vis ma vie, vraiment, cette vie-là, et c'est plus que juste le fait de partir en vacances ou de vivre un moment spécial, c'est toute ma vie, c'est les choix que je vais prendre durant cette journée qui vont peut-être modifier ou influencer le restant de ma vie. Et c'est trop bon, avant d'aller se coucher, dormir, d'aller vraiment se coucher avec cet état d'esprit-là, de te dire, mais demain, il y a vraiment une journée de plus pour réussir ma vie qui commence.
Ouais, c'est ça. Donc, on parle de routine matinale, mais il faut bien se dire, la routine matinale, elle commence le soir avant, avec cet état d'esprit. Et l'heure aussi à laquelle on va se coucher, on va en parler. Mais j'aime beaucoup cette idée de ne pas retarder l'heure du réveil, parce qu'en réalité, l'heure du réveil, c'est ta vie. C'est juste ta vie qui commence, quoi.
Mais complètement. En fait, quand on réalise, c'est que c'est juste l'histoire de décaler notre réveil d'1h20. Si tu te lèves à 7h, tu vas te lever 1h20 plus tôt, donc à 5h40. Et donc, pour respecter tes heures de sommeil, et en sachant qu'il faut 7 à 9 heures, médicalement prouvé, ben, il faudrait que tu ailles dormir au plus tard à 22h40. Si tu te lèves à 6 heures, tu vas devoir te lever donc à 4h40. Et donc, aller dormir à 21h40 au plus tard. Donc, c'est juste qu'une question de discipline.
Mais oui, je rebondis là-dessus, mais c'est vraiment une question de discipline. Et je crois que le manque de discipline a plus d'impact que ce qu'on croit dans la vie. Par exemple, tu décides de faire du sport tous les vendredis. Tu y vas pendant 3-4 semaines d'affilée, comme toujours. Puis un vendredi, c'était compliqué, ou tu as la flemme, tu es plus fatigué qu'un autre. Et tu décides de ne pas y aller. Donc, en résumé, tu avais décidé de le faire et tu déroges. À ce moment-là, tu dis « j'irai vendredi prochain, je me rattraperai, ça n'a pas d'impact sur ma vie ». Eh bien, c'est une grosse erreur. Il n'y a rien de plus faux. Ça a un impact sur qui tu es en réalité, c'est énorme. C'est la même chose si tu décides de mieux manger et puis tu dis « juste ce soir, je me lâche », tu veux lire la Bible tous les jours et tu rates ce jour-là. Le fait de rater une fois a des conséquences plus grandes que ce que tu imagines parce que ça joue sur ce que tu deviens. C'est aussi le meilleur moyen d'avoir confiance en soi quand on y pense. À quel moment tu peux faire confiance à quelqu'un qui ne tient pas sa parole? Quand la personne fait ce qu'elle dit, tu lui fais confiance. De la même manière, tu as confiance en toi quand tu fais ce que tu dis que tu allais faire. Quand tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire. Et quand tu ne fais pas et que tu prends l'habitude de ne pas faire ce que tu as décidé, en réalité, de manière inconsciente, peut-être, tu perds de plus en plus confiance en toi-même. C'est un auteur, j'aime beaucoup cette citation de Harvey Kerr, il a dit « la manière dont on fait chaque chose est la manière dont on fait toutes les choses ». Chaque fois que vous choisissez la solution de la facilité et pas celle qu'il faut, vous êtes en train de façonner ce que vous devenez, quelqu'un qui opte pour ce qui est facile. Et tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais d'un autre côté, lorsque tu fais ce qu'il faut et que tu respectes tes engagements, surtout quand tu n'en as pas envie, tu développes la discipline nécessaire que la plupart des gens n'acquièrent jamais pour obtenir des résultats extraordinaires dans ta vie. À nouveau, que la plupart des gens n'acquièrent pas non plus. Et donc, je me lève immédiatement quand j'entends mon réveil sonner, car je m'engage à devenir cette personne que je suis appelée à être. Cette personne qui est appelée à se rendre disponible pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Et donc, il ne faut pas oublier que la personne que vous devenez est bien plus importante que ce que vous faites. Et pourtant, ce sont vos actes qui conditionnent la personne que vous devenez. Mais concrètement, comment on procède au réveil, Alès?
Ouais. Donc, vous vous levez 1h20 plus tôt. Peut-être aller dormir 1h20 plus tôt, ce serait certainement plus sage. Ça va vous demander des décisions, ça c'est sûr. Et peut-être même des choses difficiles à décider. En tout cas, vous commencez votre journée par boire un grand verre d'eau. C'est indispensable et vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Mais de toute façon, boire un verre d'eau le matin, c'est une bonne habitude. Ça ne peut être qu'une bonne habitude. Vous avez passé une nuit à perdre de l'eau et se réhydrater permet de booster les organes et plus particulièrement le cerveau. Peut-être plus performant, pour être plus performant finalement dans ce qui arrive. Et vous allez en avoir besoin.
Vous allez en avoir besoin. Alors, le programme RMV en lui-même, on y va. On commence sa journée avec 10 minutes de lecture de la Bible. Indispensable. On va détailler les bienfaits de chaque étape dans les émissions à venir. Mais lire la Bible en commençant la journée, c'est comme un rééquilibrage des pensées, une nourriture de l'âme. Toutes ces affirmations, ces certitudes, il n'y a rien de mieux pour booster sa foi, sa joie, son assurance, sa reconnaissance que de commencer par 10 minutes de lecture de la Bible. La parole de Dieu est vivifiante. Vous enchaînez avec 5 minutes de mémorisation. Mémorisation d'un texte biblique, c'est de la méditation. C'est juste prendre quelques minutes pour digérer une partie de ce qu'on vient de lire. On poursuit, troisième exercice, c'est 10 minutes d'action de grâce, d'adoration et de repentance. On sait que la vraie repentance est dans son essence une nouvelle adoration. Et être chrétien, c'est avoir une vie de repentance. On poursuit avec 10 minutes de lecture d'un livre puissant, une pépite, comme on a l'habitude de le dire. Alors, on va vous conseiller des ouvrages adaptés. Ne vous attaquez pas au livre de théologie systématique, mais peut-être vous avez... Qu'est-ce que tu lis, toi, en ce moment, Adri?
Moi, je lis un livre vraiment trop puissant. Il s'intitule « La conversion », c'est de Michael Lorenz. Et il a pour but vraiment de nous, de redéfinir ce qu'est la théologie de la conversion et comment on l'applique dans l'Église. C'est tellement encourageant parce que ça déconstruit toutes les idées reçues sur l'assurance du salut. Comment ne pas donner faussement l'assurance du salut à quelqu'un, comment la donner justement. Et c'est vraiment trop bon. Chaque minute de ce livre, elle me bénit, elle m'encourage et elle me donne envie juste de lire la suite.
C'est vraiment excellent. On a du mal à s'arrêter à 10 minutes d'ailleurs. C'est un petit ouvrage de la série Nine Marks. Toi,
Les? Moi, je lis La souffrance de Timothy Keller. Un peu moins joyeux, mais tout aussi bon, tout aussi riche. Vraiment une vraie pépite, ce livre.
On enchaîne avec 10 minutes de prière. Liste de prière. Vraiment, c'est ce qu'on vous conseille. Tu prends 10 minutes de prière avec différents sujets de prière. On suit avec les fameuses 5 minutes d'anticipation. C'est juste prendre 5 minutes de silence pour réfléchir à la volonté de Dieu pour ta vie. Comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans une perspective d'accomplissement des plans de Dieu, de cette vie riche que Dieu a pour nous. Et puis on continue avec 30 minutes d'exercice physique. Alors, quand tu as fait tout ça, en réalité, tu es à 80 minutes, mais tu es à seulement 7 exercices. Parce que la huitième discipline, en réalité, tu l'as déjà commencé parce que c'est la pratique du jeûne, le jeûne intermittent, un jeûne de 16 heures. On parlera des bienfaits du jeûne intermittent, mais en gros, jeûner 16 heures, c'est juste sauter le petit déjeuner en réalité. Et non, le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée. Si tu as dîné à 19 heures, par exemple, la veille, eh bien, tu te réalimentes seulement à partir de 11 heures du matin. 16 heures de jeûne, c'est à la portée de tout le monde. Vous pouvez opter pour 16 heures, pour 20 heures de jeûne, c'est encore mieux. Mais n'allez jamais en dessous de 14 heures. Dieu a bien fait les choses, c'est le temps qu'il faut à certains de vos organes pour se régénérer. On verra ça plus en détail. Mais vous prenez soin de votre corps en jeûnant 14, 16, 18 heures. C'est aussi un des mandats créationnels que le Seigneur nous a confiés. Quand tu jeûnes, tu prends mieux soin de ton corps qu'avec un repas bio ou avec une crème rajeunissante. Donc pour résumer, lecture de la Bible, 10 minutes, mémorisation, 5 minutes, action de grâce, 10 minutes, lecture d'un livre, 10 minutes, prière, 10 minutes, visualisation, 5 minutes, exercice physique, 30 minutes, et là tu as tes 80 minutes. Alors pourquoi 8 exercices, 80 minutes et 80 jours? Pourquoi ce chiffre 8 qui revient, Adrien?
Le 8, dans le judaïsme, il y a cette pensée que le monde, il est perfectible. Il est en devenir. Le 7e jour, Dieu arrête la création et il laisse la place à l'homme, le 8e. Et en contrepartie, chaque semaine, l'homme laisse une place à Dieu en respectant le sabbat. Le 8e jour, il représente en réalité la part de l'homme. Ce qu'on appelle le shmoné en hébreu. On a failli d'ailleurs même l'appeler la méthode shmoné, mais il y a eu des petits jeux de mots.
Ça ne sonnait pas très bien. Ouais.
Et en fait, c'est au 8e jour qu'on pratique même la circoncision qui symbolise la capacité de l'être humain à dépasser sa nature limitée en entrant dans l'alliance avec Dieu. Le 8e jour, pas le 9e, pas le 7e.
Merveilleux. Ouais. Tu vois, moi, quand tu nous as présenté la méthode, je me suis vraiment posé cette question de dire, mais est-ce que je vais me faire ce cadeau? Est-ce que je vais m'offrir ces 80 minutes chaque matin pour faire ce que je n'ai jamais réussi ou même osé faire dans ma vie? Et finalement, cet engagement-là, on peut le prendre ensemble, tous ensemble, vous qui nous écoutez. Un engagement qu'on peut faire ensemble pour changer nos vies, nos communautés, même le monde, finalement. Et donc, c'est pour ça qu'on a même envie de vous poser la question en retour. Est-ce que tu es prêt, toi qui nous écoutes, à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à t'offrir ce cadeau? L'idée, c'est vraiment de ne pas faire quelque chose en se disant que Dieu se doit, maintenant qu'on a pris cette routine en main, de répondre à toutes mes prières. Au contraire, c'est être plus proche de Dieu pour faire plus de prières selon sa volonté, finalement.
J'aime bien parce que ça me rappelle beaucoup l'idée des prémices.
Oui. De
donner à Dieu ce qui arrive en premier, les premiers fruits de la terre. C'est l'idée aussi de la dîme, de la générosité. Tout appartient à Dieu. Tout notre temps appartient à Dieu. Et Dieu nous demande de lui donner également les prémices de toutes nos ressources, donc les prémices de cette ressource tellement précieuse qui est notre temps. Dieu ne veut pas du temps. Dieu veut les premières heures de la journée, le matin. C'est pour ça que je pense que cette méthode RMV, bien sûr, va nous permettre d'avancer, de grandir la connaissance de Christ dans l'intimité avec Dieu, permet également de prendre soin de notre corps, de mener une vie beaucoup plus sainte, mais également est en droite, est aligné à ce que Dieu attend de nous en réalité.
C'est tellement bon ce que tu dis. Justement, ce matin, j'étais en train, lorsque je méditais la parole, j'étais dans l'Exode au chapitre 33. Et c'est ce passage véritablement où Dieu est en train de dialoguer avec Moïse, comme à son ami, que la Bible dit. Et parce que le peuple est rebelle, à de nombreuses reprises, il lui dit « C'est bon, je vais envoyer un ange devant toi qui va marcher. » Et Moïse littéralement lui dit « Mais si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici.
»
Et ça m'a tellement rappelé RMV en fait, c'est vraiment cette idée, mais si même t'es pas là dès le départ, si même tu marches pas avec nous dès le départ de ma journée, ça m'intéresse même pas de bouger, ça m'intéresse même pas de faire ma journée, d'essayer de vivre ma vie. Je veux dès le départ que tu sois présent avec moi, dès le départ que tu marches avec moi. Et ça passe naturellement par le matin.
Ouais.
C'est trop bon.
Alors concrètement, on a commencé à 7. Et tous les sept, on a des vies complètement différentes. Il y a des célibataires, il y en a qui sont mariés, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas. Les heures à laquelle on commence à travailler le matin sont différentes aussi. Mais on croit et on a remarqué que c'est quand même possible pour tout le monde. Ça demande des aménagements, particulièrement des aménagements le soir. Parfois des décisions compliquées qui ne sont pas forcément les plus populaires parce que ça joue aussi parfois sur la socialité le soir qu'il faut prendre la décision d'aller dormir tôt parce qu'on sait que le lendemain matin. Mais ce qu'on a vu, c'est que c'était vraiment puissant de faire ça ensemble.
Ouais.
Et donc, on fait ça tous les sept, mais on a envie, comme on vous l'a dit tout à l'heure, de vous emmener avec nous et donc de travailler, d'avancer ensemble en s'encourageant les uns les autres. C'est pour ça qu'on vous demande de partager vos expériences. Je crois qu'il y a quelque chose qui va être fait sur Instagram, il y a le site internet, il y a l'adresse email RMV. On a vraiment envie de recevoir vos témoignages. Tous ceux qui là prennent la décision déjà de commencer ou qui disent ben, je vais prier puis je vais commencer, et qui ont envie de démarrer, ne faites pas ça seul. En réalité, vous mettez toutes les chances de votre côté en vous joignant à une communauté, en partageant les témoignages. Et avec votre autorisation, on partagera ce que vous nous envoyez en privé. On partagera ça dans les prochains épisodes.
Tu sais, il y a vraiment c'est trop bon ce que tu dis par rapport à l'aspect de le faire en groupe, ensemble. Moi, personnellement, quand on a commencé la routine, tu sais, à nous sept, on a un groupe dans lequel on s'écrit, tout ça. Il y a un matin... C'était un jeudi, juste après une soirée où c'était une réunion de jeunes et je suis rentré assez tard de cette réunion. Et quand je me suis réveillé le matin, le jeudi matin, je me suis dit, c'est trop dur. Là, mes yeux étaient carrément comme attachés. Je ne pouvais même pas les ouvrir, c'était vraiment trop dur, j'étais trop fatigué. Et je me suis dit, je vais quand même voir les messages sur le groupe, si vous avez envoyé des messages ou quoi, que vous vous êtes levé, tout ça. Et là, je vois sur le groupe des flammes, tout le monde qui s'est réveillé, tout le monde qui a commencé sa routine. Et là, je me suis juste dit, mais c'est mort. Je ne peux juste pas rester là dans mon lit et rester à m'endormir. Il faut que je me lève. Je me suis levé. J'ai passé un temps magnifique avec le Seigneur. Et c'est vraiment cet aspect. Je pense que si j'étais tout seul à le faire, je ne sais pas si j'aurais pu tenir sur la durée d'une façon constante tous les jours.
Ouais, c'est tellement vrai ce que tu dis. Ça m'a tellement béni de voir les échanges sur le groupe. Et après quelques jours, j'ai vraiment eu déjà l'impatience, la conviction de me dire il faut que je le partage avec ma femme, ce moment. Et donc, je lui ai un peu parlé de la méthode, etc. Et vous savez, on part pas à la même heure pour aller au travail. On a un enfant bas âge. Et l'idée, c'est de se dire ok, avant, on se levait jamais en même temps parce qu'on partait pas à la même heure. Et donc, on ne partageait pas vraiment de temps déjà ensemble. Et surtout, on ne s'encourageait pas dès le matin. Et en présentant la méthode, on était juste réjouis de se dire, mais on va commencer ensemble nos journées. Comme ça change toute la dynamique d'un couple. Et comme ça a changé même ma dynamique, ça m'a tellement encouragé. Et elle aussi, de savoir qu'on est dans deux pièces différentes, mais on est en train de faire notre routine RMV. Voyez ? Et c'était tellement encourageant après de se dire... Direct après, on n'avait pas le temps d'échanger sur notre ressenti. Mais pendant la journée, on s'envoyait des messages. Mais Si, mais c'était trop bon ce que j'ai lu. Et on s'encourageait comme ça. Et ça a vraiment apporté une nouvelle dynamique à notre couple.
Donc, vous n'êtes peut-être pas tous mariés, vous ne faites peut-être pas tous partie d'un groupe d'amis, mais vous pouvez quand même trouver des partenaires. Alors, nous, on est là, évidemment, vous partagez avec RMV, mais si vous faites partie d'un Lula, d'un groupe de jeunes, vous avez un frère, une sœur, un père, une mère, vous embarquez quelqu'un avec vous dans l'aventure, faites ça. Les uns avec les autres, c'est tellement plus riche. Et encore une fois, ça vous permet de tenir sur la durée. Comme on l'a dit, c'est pas l'originalité d'une méthode spéciale. Il y a rien de magique là-dedans. En réalité, c'est vraiment dans la constance que se trouve la clé, que se trouve le résultat. Et le résultat va être aussi une motivation à continuer. Le but, évidemment, eh bien, c'est de faire ça toute sa vie. Parce que quand tu réalises que tu passes de meilleures journées et donc ça influence toute ta vie, tu n'as pas envie de t'arrêter à 80 jours. Ça devient véritablement un style de vie.
Est-ce que justement, tu parles de ces impacts qui est là, style de vie, à faire toute sa vie. Est-ce que peut-être on peut échanger sur les fruits qu'on voit déjà actuellement dans notre vie depuis qu'on a commencé cette méthode, ce programme? Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, dans votre vie?
Mais ça a été très rapide, mais c'est vraiment cette satisfaction de se dire, ces 80 premières minutes, je les ai accordé en priorité à Dieu. Et juste, waouh, en 80 minutes seulement, 1h20, j'ai déjà accompli tellement de petites choses qu'auparavant, je n'aurais jamais fait. Rien que, par exemple, l'étude de la parole, tellement, tellement intéressant, on y reviendra plus tard, mais je voulais, c'était une de mes résolutions de 2024 et même de 2023, mais je le faisais de façon vraiment très irrégulière. Le fait de le faire régulièrement, chaque jour, rien que ça, mais c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait par le passé. Et donc, ouais, il y a vraiment cette satisfaction de se dire, waouh, on a déjà fait tout ça. Et c'est vraiment bon.
Moi, je dirais que ce qui change beaucoup, c'est l'état d'esprit avec lequel se déroule ta journée, avec lequel tu vas affronter les différents défis. Tu commences avec, comme on dit, un mindset complètement différent. Tu démarres, tu sais que tu as fait ce qu'il fallait avant. Et c'est comme si tu es en train de construire ta journée. Si tu imagines, c'est une maison, tu construis ça sur des bonnes fondations. Donc, pour moi, l'état d'esprit dans lequel ça te met pour commencer ta journée, tu pars déjà victorieux. Tu vois ce que je veux dire? Après, je te dirais que mon défi, personnellement, moi, je suis quelqu'un qui me lève assez tôt de toute façon. Ce n'était pas vraiment dans le fait de se lever tôt. Mon défi, c'est plutôt dans la concentration. Et le fait de mettre un cadre comme ça, j'ai du mal à faire une seule chose à la fois. Mais le fait d'être comme ça dans un cadre, tu prends 10 minutes, tu prends 5 minutes, tu prends 10 minutes, ça te permet en réalité de dire, mais je ne vais pas tout faire à la fois, je ne vais pas tout faire en même temps. Il y a quelque chose qui est cadré et que tu fasses en 80, en 90 ou en 120 minutes, mais tu es en train d'avancer et au bout du compte, tu sais que tu arrives au bout et après ça, commence vraiment la journée.
C'est ça. Tu sais, je partage aussi ce défi-là que tu t'as retrouvé par rapport à la concentration. Moi, un défi que j'ai plus aussi perçu, ben, c'est à l'inverse de toi, c'est vraiment la fatigue lorsque je me réveille parfois. Mais par contre, je réalise qu'un des fruits que ça produit dans ma vie, alors c'est peut-être paradoxal, mais c'est que je suis plus en forme pour la journée, tu vois. Je me réveille le matin, alors oui, parfois j'ai dur, oui, parfois je dois vraiment lutter avec la fatigue, avec le sommeil qui vient, qui veut me rattraper, qui veut me ramener dans le lit. Mais au final, quand j'y suis arrivé, mais c'est comme si j'avais une quantité d'énergie pour toute la journée plus grosse ou plus grande que j'en avais avant. Et donc moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui, à la fois, est un défi, la fatigue, mais à la fois, m'encourage dans le fait où je me dis, tiens, bon, parce qu'après, ta journée, tu vas être en forme. Et c'est vraiment moi ce que je vois pour l'instant dans ma vie.
Tu parlais de concentration, mais je trouve qu'avoir un programme de 80 minutes séparé en 8 exercices, que tout soit cadré, ça, en tout cas, la pensée qui était dans mon esprit, c'est de me dire, mais j'ai pas envie de gâcher ne serait-ce qu'une minute de ces 80. Il y a 10 minutes de méditation, 10 minutes de prière, etc., mais je veux même pas en gâcher une. Sinon, ça n'aura plus la même valeur. Et donc, mon esprit est comme programmé à être beaucoup plus attentif, beaucoup plus précautionneux et juste j'absorbe, je digère beaucoup plus les choses.
Ça, tu profites de chaque minute.
Exactement.
Ouais. Et c'est fou ce sentiment, ben, quand tu arrives au travail, tu arrives au bureau, tu as déjà fait ta demi-heure de sport, tu t'es déjà nourri spirituellement. Effectivement, tu as plus d'énergie que quand tu ne le fais pas. C'est vrai à cause de tout ça, mais c'est aussi vrai à cause du jeûne. Le fait d'être comme ça en jeûne, ton corps va te fournir des énergies, va l'épuiser, tout ça, on verra plus en détail.
Tu vois, ça me fait rire parce que tu dis, tu sais, quand on arrive au bureau, tout ça, on a tous les trois la grâce de servir Dieu à temps plein. Et justement, peut-être que les gens peuvent dire, mais vous avez facile, c'est votre travail de servir Dieu. Donc, c'est normal que c'est facile pour vous de passer du temps avec Dieu ou de lire votre Bible. Qu'est-ce qu'on répondrait par rapport à ça?
Je crois que le challenge, il est le même pour tout le monde. C'est de se lever tôt et on a tous des défis. Personnellement, mon fils, il y a une heure à laquelle il faut que je l'emmène à la crèche. Et puis surtout, il y a une heure à laquelle il faut arriver au bureau. Parce que même si on est employé par l'église, c'est pas le Club Med où on arrive quand on veut. Et donc, il faut s'organiser pour faire le nécessaire. Et donc, se coucher plus tôt, se lever plus tôt, et pouvoir, moi, personnellement, conduire mon fils à la crèche, etc. Et puis après, arriver à l'heure au travail en évitant les bouchons. Donc, voilà.
C'est vraiment l'idée de se dire, on sert Dieu, tout ça, mais ça n'a rien à voir avec le temps personnel qu'on doit passer avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que ta vie personnelle ou ta vie avec Dieu, ta relation avec Dieu est au top. Il faut vraiment que tu veilles à ça personnellement et en dehors du travail, finalement.
Je pense que c'est vrai pour tous ceux qui servent. Tu ne peux pas utiliser ton temps de préparation pour le ministère comme étant ton temps personnel avec Dieu. Tu as besoin d'avoir un temps juste toi et Dieu, le principe du lieu secret où ton père qui est là dans le lieu secret te voit et te le rendra. Maintenant, je crois vraiment que cette méthode, au-delà de nous bénir personnellement, peut vraiment avoir, et a déjà, on le voit nous, un impact dans notre entourage, dans notre famille. Et évidemment que dans notre statut ou dans notre rôle de responsable d'église, le but c'est que derrière, il y a véritablement un réveil spirituel d'abord de chaque personne, parce que le réveil c'est pas d'abord collectif, c'est d'abord individuel, et que cette méthode, si on veut, et je pense, peut être vraiment un instrument entre les mains de Dieu pour nous amener à l'étape suivante. C'est ma prière.
Mais imagine-toi une église, pas juste quelques personnes, mais une église qui pratique cette routine-là.
C'est incroyable.
Qu'est-ce que ça t'a changé, même pas que pour l'église, mais même pour la ville carrément, un truc de fou.
J'ai juste envie de dire à ceux qui partent déjà défaitistes en mode « ça ne va pas être possible pour moi, j'ai trop de choses à faire, je devrais me lever trop tôt », ne vous précipitez pas à dire « c'est pas pour moi ». Juste prenez le temps de prier, de réfléchir et soyez courageux aussi. Faites les aménagements qu'il y a à faire. On est plusieurs à le faire, on n'est pas les premiers. Et je crois que si c'est possible pour nous, c'est possible pour vous.
En parlant d'aménagement, je crois qu'il y a des petites choses qu'on peut mettre en place et qui peuvent vraiment nous encourager. Très vite, j'ai pris conscience que si je voulais faire les choses à fond et ne pas gaspiller ce temps-là précieux, et si je voulais être dans les meilleures dispositions pour bien commencer, il fallait que je me prépare la veille. Pas simplement organiser l'heure de coucher et l'heure du lever, mais également organiser mon plan d'action, ma méthode RMV. C'est-à-dire concrètement, sur mon bureau, l'endroit de travail, donc mon esprit est déjà conditionné que si je m'assieds sur mon bureau, ben ça va être un moment où je vais réfléchir, etc. Pas un moment de détente dans mon lit à moitié couché où je suis à deux doigts de me réendormir avec ma Bible en main. Ben, ma Bible est déjà ouverte à la page où je me suis arrêté la veille. J'ai déjà mes fluos, mes crayons pour écrire dedans. J'ai mon livre chrétien qui est déjà ouvert à la bonne page. J'ai le verset que je compte mémoriser qui est déjà sélectionné. En gros, tout est préparé pour ne pas perdre de temps et pour que j'arrive limite juste avec mon verre d'eau sur mon bureau, prêt à commencer. Ouais. Je m'embarrasse pas de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut que je fasse et juste, oh non, mais je vais commencer quoi, par quoi maintenant, ou je vais enchaîner par quoi. Non, tout est déjà organisé, préparé. Il y a juste que moi qui dois arriver sur cette chaise. Ouais.
Ouais, je crois que chacun d'entre nous est responsable de trouver les meilleurs moyens, les meilleures méthodes pour favoriser à tenir cette décision sur la durée.
Moi, perso, c'est l'aspect, bon, j'ai déjà dit, mais la fatigue, pour moi, c'est vraiment un défi. Donc, par exemple, pour les moments de prière, je me lève souvent. Je marche pendant que je prie pour ne pas rester assis et avec les yeux fermés, qui est un piège pour moi. Donc, je me lève et voilà, et je parle à Dieu comme ça, et ça m'aide à rester. Après, il y a plein de tips, de conseils pour nous aider là-dedans, mais c'est un peu à chacun de trouver là où il peut s'améliorer, les pistes d'amélioration pour finalement être le plus efficace dans le programme, quoi.
Décision. Allez, peut-être le mot de la fin, mais juste avant, je précise qu'on a vraiment envie de vous faire participer à tout ça. Et en fonction des témoignages qu'on va recevoir, on invitera peut-être l'un ou l'autre d'entre vous à des futures émissions, et bien à venir partager avec d'autres, comme ça, par podcast, vos expériences, et on a hâte de recevoir vos retours. Adri ?
Moi, je peux que vous encourager, vous qui nous écoutez, à saisir que Dieu vous a donné cette ressource qu'on appelle le temps, qui est une ressource qui, à l'inverse de l'argent, ne peut pas se récupérer une fois qu'il est perdu. Et d'ailleurs, la Bible nous encourage à racheter le temps, car les derniers jours sont mauvais. Et donc, vraiment, faites un bon usage de ce temps-là, parce que c'est une ressource inestimable, véritablement. Ce n'est pas des mots en l'air, c'est des mots qui sont pesés. Le temps est précieux. Et une journée, une fois qu'elle est perdue, elle est perdue, on ne pourra pas revenir en arrière. Et donc, faites juste, ayez cette prise de conscience que ce temps-là, vous pouvez soit bien l'investir, bien l'utiliser, et ça va conditionner toute votre journée, et donc toute votre vie, ou soit le gaspiller, comme peut-être beaucoup. Vous l'avez toujours fait.
J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce temps qui ne revient pas.
Je peux peut-être vous partager juste un témoignage. Le jour où tu nous as partagé la routine, je me souviens de ce frère qui a dit, ok, moi il s'est ouvert à nous, il nous a dit, moi j'ai autant d'années, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et j'ai l'impression d'être nulle part avec Dieu. J'ai l'impression de ne pas avoir encore accompli ce pourquoi je suis sur terre. Ou j'ai vraiment l'impression que je me pose des questions même par rapport à quoi ma vie sert ici-bas. Et ce que tu lui as dit, ça m'a vraiment interpellé. Tu lui as dit, en temps normal, je t'aurais juste répondu, fais confiance à Dieu. Et aujourd'hui, après avoir expliqué la routine, tu dis, maintenant, je te dirais, fais confiance à Dieu, mais bouge-toi aussi. Mets-toi en action. Et c'est vraiment l'encouragement que je peux vous donner. Bien sûr, Dieu est souverain de tout et Dieu est digne de toute notre confiance, on doit lui faire confiance. Mais il y a aussi une part qui nous revient que Dieu ne fera pas à notre place finalement. Donc l'encouragement, c'est vraiment de se dire, fais confiance à Dieu, mais maintenant il est temps que tu te mettes en action, que tu te bouges pour réussir véritablement ta vie.
Eh bien, on va finir sur cette note, les amis. Faites confiance à Dieu, mais il est temps de se bouger, d'avancer parce qu'il y a plus. Merci à tous pour votre écoute, c'était Réussir ma vie et à dans 2 semaines.